Radio Rancière présente Un jardin perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je suis très heureuse de retrouver Nadia de Kermel. Nous avons évoqué la fois dernière le printemps et l'été, et nous avons évoqué les plantes qui n'étaient pas des plantes rares, mais qui avaient été découvertes au 16e, 17e, et nous étions arrivés au jardin. Et aujourd'hui, justement, je suis très contente parce qu'elle va présenter les différents jardins. Tout ça, d'ailleurs, on peut le trouver dans L'Ami des Jardins, un numéro exceptionnel qu'a écrit Nadia de Kermel. Oui. Nadia de Kermel, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment on peut trouver L'Ami des Jardins? Pourquoi vous avez écrit dans ce journal
et... Alors là, il y a deux choses.
Voilà.
Oui, parce que, effectivement, l'autre jour, nous parlions de ce hors-série qui est sorti sur l'histoire des plantes. Ça, c'est un hors-série, comme tous les hors-séries de L'Ami des Jardins qu'on peut trouver dans les jardineries ou dans les magasins de bricolage. Presque tous, je crois, sauf Truffaut et Leroy Merlin. Et sinon, on peut écrire aussi à L'Ami des Jardins. Je vous donne rapidement l'adresse, c'est rue 8 rue François Horry, O-R-Y, à Montrouge, 92. Donc, si vous écrivez là, on vous l'envoie. Ça, ce hors-série, c'est sur l'histoire des plantes. Finalement, de nos jardins. Après, l'histoire des jardins n'est pas abordée dans ce hors-série. C'est
oui,
autre chose.
C'est nous qui avons
commencé
à en parler
un peu rapidement.
Voilà. Donc, on revient sur ces jardins.
Oui.
Et ça fait très longtemps qu'il y a des jardins, puisque la création.
Oui. Parce que l'autre jour, on disait, vous disiez peut-être les jardins anglais étaient plus précoces que les jardins français. Parce que évidemment au début on peut dire que les premiers grands jardins sont les jardins chinois qui ont commencé à se faire, à se créer bien avant
alors en quelle année
Jésus-Christ.
À peu près
je crois que le 5e, 6e siècle, peut-être même avant Jésus-Christ.
Oui.
L'empereur de Chine avait déjà un jardin. Alors c'est un jardin évidemment aux dimensions de la Chine, c'était absolument colossal.
Ah, oui.
L'idée étant d'avoir un morceau de nature à soi, donc c'était très inspiré du paysage. Et très rapidement, les fonctionnaires, l'élite chinoise a voulu aussi avoir son jardin. Mais ça avait, c'était pas pour rien, c'était pas pour dire j'ai un jardin que les gens, c'était par besoin vital quasiment, parce que il se trouve que la vie à l'époque en Chine était extrêmement codée, très très sévèrement ordonnancée. Par exemple, les mandarins avaient des distances, leurs pas avaient des distances qui devaient être régulières.
Ah oui.
Entre les boutons de leur tunique, il devait y avoir un espace qui était toujours régulier aussi. Tout était codifié, tout, leur tasse de thé, le diamètre de la... Tout. C'était très rigide. Et finalement, même...
Des codes, quoi.
Ah oui, très très lourd. Et l'empereur lui-même subissait cette lourdeur administrative. Mmh. Et donc, le fait d'avoir son jardin, c'était pour eux...
Un dérivatif,
un espace de liberté. Donc, la nature, le paysage, avoir des graviers qui simulent la mer ou des pierres qui simulaient la montagne. Voilà. Bon, après, évidemment, le naturel revient au galop et le jardin chinois lui-même est devenu quelque chose d'extrêmement codifié, très symbolique, avec des codes.
Exemple.
Absolument passionnants. Beaucoup de symboles, beaucoup de...
Oui, alors ça, c'est intéressant.
De
oui.
Symboles dans le jardin chinois. Par exemple, alors, il y avait les jardins d'artisans, par exemple, les jardins des artisans, alors je vous parle là de la Chine traditionnelle,
oui, oui,
hein,
oui.
Étaient des lieux fermés, voilà, avec... toujours, en revanche, des ouvertures, des fenêtres qui donnaient sur l'extérieur pour avoir des vues sur le paysage. comment vous dire, alors si c'était un artisan par exemple qui avait fait aussi fortune, je sais pas, dans la bière par exemple, il avait des meules qui étaient disposées au sol sous une cascade, les pierres symbolisaient la montagne. Bon, on peut...
Ce qu'on retrouve un peu dans l'art japonais.
Oui.
Des jardins.
Oui, alors voilà. Là, c'est tellement énorme que j'en perds mes idées. le jardin japonais, évidemment, on le retrouve parce que c'est inspiré directement du jardin chinois.
C'est ça, oui.
Donc, il est ultérieur au jardin chinois. Et les bonsaïs aussi sont inspirés de ce qu'on appelait les penjin. Je ne sais pas si je le prononce bien, en Chine. C'est-à-dire que aussi bien on pouvait trouver des jardins en Chine de plusieurs centaines de milliers d'hectares, qu'on pouvait aussi très bien imaginer avoir un jardin dans un bol. C'était tout petit. Alors un caillou, une très jolie pierre symbolisait une montagne. Un tout petit arbuste qui était taillé, et parfois qui était très vieux, restait petit, nanifié finalement, symbolisait, s'il était persistant, symbolisait l'immortalité, etc. Bon. On pouvait mettre des petits passages, on pouvait faire même des figurines, des petites fabriques, mais tout ça tenait dans un bol. Le bonsaï, qui est purement une réalisation japonaise, un bonsaï, il y a dans un pot, dans une coupelle, juste un arbre. Il n'y a pas de décor du tout. Mais c'est très inspiré donc du jardin chinois. Et le jardin anglais aussi, dont on parlait tout à l'heure, probablement s'est inspiré du jardin de Chine. Les Anglais, quand ils sont arrivés en Chine... après que la Chine se soit ouverte au reste du monde, ont découvert ces jardins inspirés de la nature, des paysages, etc. Et le jardin à l'anglaise, le parc à l'anglaise, c'est typiquement quelque chose de très paysager, avec des pièces d'eau, de grands arbres.
Et il ne faut pas que ça ait l'air, justement.
Il ne faut pas que ça ait l'air d'être jardiné, voilà. Contrairement au jardin français qui, lui, un jardin à la française... il est plus juste de dire le jardin régulier ou jardin classique, qui a été peaufiné par le nôtre au XVIIe, donc avant qu'un grand paysagiste comme Capability Brown en Angleterre fasse ses premiers grands jardins paysagers. Voilà, c'est rien à voir, donc le jardin français est très... mais il avait une véritable... Le jardin français, pour le coup, avait une vraie originalité. Ça se trouvait nulle part ailleurs. C'est une architecture.
Et là, à votre avis, ce jardin français a été créé sous Louis XIV?
Oui, voilà. Il y a d'autres architectes paysagistes avant le nôtre qui avaient commencé à faire des jardins réguliers, mais c'est vraiment le nôtre, avec les moyens qu'il avait, qui étaient absolument colossaux, qui a peaufiné le travail. Mais ça, pour moi, c'est vraiment du travail d'architecte. Hein. On les appelait les architectes paysagistes. Mmh. C'est pas du tout... on n'imite pas du tout la nature, on la contraint complètement. C'est-à-dire qu'il n'était pas... impensable de détourner le cours d'une rivière ou d'abattre une montagne. Tout était possible, il y avait tellement d'argent. Et c'était pas du tout, on voulait pas du tout imiter la nature. On voulait la contraindre.
C'est ça d'ailleurs, on a abattu le jardin de Maintenon qui est fort joli.
Alors là, qui a été restauré d'ailleurs, c'est un très joli jardin à visiter. Parce qu'en fait, il a jamais été... Il n'y a jamais eu de jardin à la française.
Non.
Voilà. Il a été refait d'après quelques plans et puis d'après ce qu'on sait des jardins classiques. Mais enfin, en réalité, il n'y en avait jamais eu vraiment de mis en place.
Oui.
À l'époque de Madame de Maintenon, par exemple, c'était pas mis en place. Il y avait le petit canal, il y avait des choses comme ça, mais ça n'avait pas été... Et c'est un très beau jardin. Oui, effectivement.
Mais on a de la chance, en France, on a des très beaux jardins.
Ah oui, mais plein, oui, bien sûr, plein.
Celui qui vous plaît le plus?
Oh non, je peux pas dire ça parce que...
Vous les aimez?
Non, je les aime pas tous, bien sûr que non. On peut pas dire que je les aime tous. D'abord parce que j'aime la nature. Si je dois dire, celui que je préfère, c'est la nature. C'est le plus beau jardin, clairement, voilà. Mais les jardins faits par l'homme ou les hommes, je ne peux pas les aimer tous. Ça reviendrait à dire « j'aime tous les hommes », c'est faux. J'aime pas tout le monde, je ne suis qu'être humain, cette ambition.
Non, mais par exemple, il y a quand même des jardins différents en France.
Il y a tous les styles, et c'est vrai que les Français s'y sont mis ces dernières années avec beaucoup de bonheur. En même temps, ce que je trouve touchant dans chaque jardin, il y a toujours quelque chose de beau. De la même façon qu'il y a toujours quelque chose de beau chez chacun d'entre nous. Donc, et comme c'est très personnel, un jardin, on retrouve ça. C'est toujours des créations très personnelles. Les gens y mettent beaucoup d'eux-mêmes. Donc, on retrouve toujours quelque chose comme ça dans le jardin, toujours quelque chose de joli ou de touchant, d'attachant, même si c'est pas réalisé dans les règles de l'art, etc. Et puis, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça aussi qui fait le charme.
Et d'ailleurs, les jardins conçus par des hommes sont très différents de ceux qui sont conçus par des femmes.
Oui, 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 c'est vrai. En règle générale, c'est assez vrai. C'est voilà, on va dire qu'il y a plus souvent d'arboretum parmi les hommes que chez des femmes qui vont préférer les fleurs. Mais on trouve de tout quand même. On trouve de tout quand même.
Oui.
Et moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent beaucoup aux arbres de collection notamment, de plus en plus. Peut-être que les femmes aujourd'hui affirment davantage leur masculinité et les hommes davantage leur féminité aussi.
Oui.
Donc ça se ressent aussi dans le jardin en fin de compte.
Oui, parce que au départ, c'était les hommes qui étaient les grands architectes des jardins.
Oui. Bah oui, à l'époque, par exemple, de Le Nôtre, pour y revenir, il n'y avait pas de femmes, évidemment, qui étaient architectes paysagistes, il n'y a pas question de ça. Les femmes qui jardinaient autrefois, c'était dans les fermes. Femmes s'occupaient du jardin de fleurs, du jardin où elles cultivaient les fleurs pour l'église, les fleurs pour se soigner. Et voilà, et c'est tout, quoi.
Oui, parce que les jardins du Moyen-Âge sont très différents.
Ben, les jardins du Moyen-Âge, c'était plus dans les monastères.
Oui.
C'était des plantes médicinales, beaucoup, des simples. C'est encore autre chose, effectivement. C'est encore autre chose. Et puis, le jardin était nourricier aussi, beaucoup. Avant tout, le jardin ornemental, c'est quelque chose d'assez récent, en fin de compte.
En fait, il y avait souvent les deux jardins, le jardin potager et le jardin d'agrément.
Ben, oui, ce qu'on a connu, nous, même nos grands-parents, il y avait le potager, évidemment, encore, qui tenait une grande, grande place. Et le jardin de fleurs, qui tenait une plus petite place, parce que finalement, c'était moins important, c'était juste pour faire joli. Et c'est vrai que c'est pas vieux, ça, encore.
Non.
Et c'est une ou deux générations derrière nous. Et ça perdure encore quand même dans là je reviens de, j'étais en Savoie chez un pépiniériste qui a une très belle collection de pommiers à fleurs, donc de malus, et il me disait, mais en Savoie les gens voient aussi bien les prunus que les malus et viennent et disent, ah mais ça c'est des pommiers, des cerisiers, dit oui, et ça donne quoi comme pomme, ça donne quoi comme cerise, et dit bah
non
c'est uniquement ornemental, ça n'intéresse personne.
Ah bon?
Non. Et il me dit, mais je vends aucun de ces sujets-là dans la région, parce que les gens veulent encore des plantes qui donnent. Mais c'est un réflexe. Mon grand-père, il voulait des plantes qui donnaient.
Mais regardez la vogue des cerisiers.
Oui, non, mais ça, on trouve ça. Après, ça touche des gens qui ont des jardins plus ornementaux, etc. C'est pas la.
Et vous, votre jardin idéal?
Mon jardin idéal, c'est un jardin dans lequel les gens qui viennent se sentent bien. C'est comme une maison, voilà, c'est ça le jardin idéal. Et je pense que du coup, il faut le faire sans tricher, en écoutant son cœur, les plantes qu'on aime. Et parfois, je trouve ça un peu désolant que les gens se disent, oh, ils prennent un modèle et disent, je veux le même parterre, la même association. Il faut laisser faire son cœur, ses goûts. Donc on a droit aussi au mauvais goût dans le jardin, parce que si c'est sincère, ça fait un ensemble joli. Vous voyez, c'est un peu comme te dire, des fois, il y a des gens qui sont pas beaux parce qu'ils ont le nez de travers, ils ont un œil plus haut que l'autre et puis les dents qui se croisent, mais l'ensemble fait qu'ils sont beaux. Ils dégagent quelque chose de chouette, ben, le jardin c'est pareil.
Eh bien je crois que c'est sur ce mot que nous nous arrêterons. Nadia de Carmel. Nous allons découvrir ceux qui ont découvert eux-mêmes les plantes. Alors, quels sont les grands découvreurs de plantes que vous connaissez, ou du moins qui vous paraissent importants?
Il y en a évidemment beaucoup, on va pas parler de tous,
ceux qui vous sont chers.
Oui, alors il y en a deux qui me sont chers, parce qu'on pourrait parler de Charles de Lescluze, celui qui a fait connaître, qui a contribué à faire connaître la tulipe par exemple. Ça, c'est le 16e.
C'est important aussi parce que des tulipes, voilà, dans une première émission, et mais on ne savait pas qui l'avait découvert.
Voilà. Et en revanche, il y en a un qui m'est cher, c'est le père Armand David. Armand David est un missionnaire. Il est né au Pays Basque. Et donc, il est né en 1826. Et comme c'est marrant, parce que souvent les missionnaires, enfin, non, pas les missionnaires, les découvreurs de plantes ont eu souvent, qu'ils soient anglais ou français, souvent, pas toujours, ont été découverts enfants, c'est-à-dire que c'était des mômes extrêmement brillants, très curieux, très brillants. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on leur enseignait les sciences naturelles, voilà. Et c'était important. Et là, il y a certains d'entre eux avaient, dès le plus jeune âge, étaient vraiment tournés vers ça. Ça a été le cas du jeune Armand David, qui était un enfant dont on dirait peut-être précoce aujourd'hui, qui était très doué pour les études. Ou comme c'était, je crois, le dernier de la famille, son père l'a placé donc au petit séminaire où il était excellent, brillant élève, etc. Et surtout, ensuite, il a intégré une congrégation, celle de la mission de Paris, je crois que c'était des lazaristes, parce qu'à l'époque, c'était l'occasion, on pouvait, en faisant ça, partir à la découverte du monde.
Voyager.
Alors, je dis pas qu'il croyait pas en Dieu et que c'était pas une histoire de foi. Enfin, ça, je remets pas du tout en question ça. En revanche, il y avait ça aussi clairement qui le titillait, c'est que lui, il voulait partir voyager, découvrir des choses et voilà. Bon, alors évidemment, il rêvait de la Chine, puisque la Chine commençait à s'ouvrir au monde, etc. Bon, je crois que il s'est retrouvé en Italie, c'était pas tout à fait ce qu'il voulait. Mais bref, à un moment donné, il a pu partir en Chine. Et c'est pour les gens qui ont quelques plantes, un petit peu de collection, etc. Il y a énormément de plantes qui, dont le nom latin finit en Davidii. Voilà.
Ah,
Davidii,
oui.
Ça veut dire que c'est David. Elles ont été nommées en l'hommage d'Armand David, qui est probablement le plus grand des missionnaires naturalistes, parce que beaucoup de missionnaires sont partis en Chine, mais n'avaient pas de formation de naturaliste. Mmh. En revanche, Armand David, lui, en avait une.
Ah oui,
donc, il a découvert énormément de plantes et il a aussi découvert, parce qu'ils n'étaient pas que botanistes, ils étaient zoologistes, c'était vraiment des naturalistes, aussi bien. Il a découvert le grand panda, le panda géant.
Ah!
Et c'est amusant de voir qu'en Chine, presque Armand David est plus connu qu'en France.
Oui, en France, il n'est pas très connu. Merci d'en parler aujourd'hui.
Et parce que il y a une petite ville, Baoxing, qui se trouve dans le Sichuan. À Baoxing, il y a une statue qui a été élevée.
Vous êtes allé en Chine ?
Oui, oui, dans le Sichuan, mais pas à Baoxing. Mais en tout cas, là, il y a une statue qui a été élevée en l'honneur d'Armand David, puisque maintenant le panda, on sait l'importance que ça a en Chine, et pour avoir découvert, décrit le panda géant, et voilà.
Et quelles sont les plantes qu'il a découvertes ?
Oh, il y a pléthore, parce que des milliers de plantes il a découvert et a envoyé, etc. Mais alors, plutôt que vous dire tout ça, je voudrais vous lire un extrait d'un de ses journaux.
Oui.
En l'occurrence, c'est le journal de mon troisième voyage d'exploration dans l'Empire chinois.
Je vous arrête deux minutes. C'est tiré de l'Ami des Jardins.
Alors,
peut le trouver où ?
Alors ça, c'était ces chercheurs, ces explorateurs. Il y a quelques biographies d'eux qui sont glissées dans le hors-série qui s'appelle « Les étonnantes histoires des plantes ». C'est un hors-série de l'Ami des Jardins, qu'on peut trouver en écrivant à l'Ami des Jardins ou bien dans les jardineries et dans les magasins de bricolage. Il y a souvent
une librairie.
Un petit tourniquet sur lequel on trouve les hors-séries différents, dont celui-là. Mais sinon, écrire à l'Ami des Jardins, 8 rue François-Horry 92 Montrouge, et on vous l'envoie. Alors moi, je vous lis cet extrait, vous allez être absolument étonnés. Et donc ça, c'est Armand David qui a écrit ça. Ce livre est paru en 1875, donc quand même. Il écrit « On se sent malheureux de voir la rapidité avec laquelle progresse la destruction de ces forêts primitives dont il ne reste plus que des lambeaux dans toute la Chine et qui ne seront jamais plus remplacés. Avec les grands arbres, disparaissent une multitude d'arbustes et d'autres plantes qui ne peuvent se propager qu'à l'ombre, ainsi que tous les animaux, petits et grands, qui auraient besoin de forêts pour vivre et perpétuer leur espèce. Et malheureusement, ce que les Chinois font chez eux, d'autres le font ailleurs. C'est réellement dommage que l'éducation générale du genre humain ne se soit pas développée assez à temps pour sauver d'une destruction sans remède tant d'êtres organisés que le Créateur avait placés dans notre terre pour vivre à côté de l'homme, non seulement pour orner ce monde, mais pour remplir un rôle utile et relativement nécessaire dans l'économie générale. Une préoccupation égoïste et aveugle des intérêts matériels nous porte à réduire en une prosaïque ferme de cosmos si merveilleux pour celui qui sait le contempler. Bientôt, le cheval et le porc d'un côté et de l'autre, le blé et la pomme de terre vont remplacer partout ces centaines, ces milliers de créatures animales et végétales que Dieu avait fait sortir du néant pour vivre avec nous. Elles ont droit à la vie et nous allons les anéantir sans retour en leur rendant brutalement l'existence impossible. »
Ah oui, très beau texte.
C'est très beau.
Maintenant, c'est vraiment...
C'est écrit en 1875.
Et oui, c'est ça.
Et déjà, il se désespérait de la monoculture, finalement.
Oui. Un siècle et demi,
Et
presque.
De ce manque de... Comment il appelle ça éducation générale du genre humain ne soit pas assez développée à temps. C'est ça, ouais, on se dit, mais est-on bête, quoi?
Mais oui. On détruit. Oui, parce qu'on ne fait que continuer.
Oui, avec toujours plus rapidement, avec une folie destructrice qui ouais. nous est propre, visiblement. Donc, c'est incroyable. Donc, Armand David, un monsieur remarquable, et un autre, pour ne citer que lui, parce que vraiment, il y en a, ils sont tous absolument extraordinaires, mais pour vous donner une idée de Robert Fortune, de sa carrière, c'est absolument incroyable. Robert Fortune est écossais.
Quelle époque? Il est né
au début 19e, 1812, je crois, il est né en 1812. Il, il est visiblement d'une famille modeste, voilà. Il est placé très jeune comme apprenti jardinier. On s'aperçoit qu'il n'est pas trop bête, donc il devient jardinier. Et puis enfin, chef jardinier. Et puis, il a grimpé comme ça. Et là encore, la Chine s'ouvre au monde. Il est question, il faudrait envoyer des gens chercher des plantes. Tout cela était extrêmement, évidemment, intéressé, bien évidemment. On peut parler presque d'espionnage industriel, on dirait ça aujourd'hui. Pour Robert Fortune, c'est un petit peu ce qu'on a reproché à ce bon Fortune, parce que l'idée quand même pour les Anglais, c'était de rapporter le thé de Chine.
Oui.
Donc il y avait eu... Et on se dit, ce monsieur a complètement chamboulé finalement le schéma de l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que il a réussi à affréter des navires avec des plants de théier pour que les Anglais puissent les planter en Inde.
Ah oui.
C'est comme ça que ils ont eu du Darjeeling, etc. Parce que les Anglais commençaient à consommer du thé, ça leur coûtait très cher les importations de Chine, et ils se disaient que c'était plus possible. Et ils ont réussi, Robert Fortune était mort juste avant, il ne l'a pas vu, mais enfin, à inverser la vapeur. C'est-à-dire on a fini par importer davantage de thé d'Inde que de Chine. Mais c'était un bouleversement énorme, ça. Énorme. Donc, moi, ce qui m'épate, tous ont vécu des trucs absolument incroyables. Mais ce Robert Fortune, écossais, donc on imagine avec un accent pas possible, part en Chine. Première expédition, il s'est mis rapidement à apprendre le mandarin.
Oui, parce que c'est quand même
pas
évident.
Oui, la langue quand même. C'est carrément pas évident.
Oui.
Bon. Donc il se met à apprendre le mandarin. Comme il n'était pas bête, il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une certaine xénophobie. Donc il a fait en sorte de se fondre dans le paysage. Donc il a adopté le costume chinois. Il s'est fait tondre les cheveux. Il a gardé la natte du mandarin. Et voilà. Et la deuxième expédition, il se faisait finalement passer... pour un seigneur d'une province lointaine. En Chine, tout est possible, c'est tellement vaste. Les gens se disaient, tiens, il a un drôle d'accent, mais why not? Bon, allez.
Oui, c'était vraiment...
Et c'est de l'espionnage.
Ah oui, complètement.
Finalement, c'est de l'espionnage. Donc, on lui a reproché quand même. Bon, voilà. C'était pas...
Mais de toute façon, pour être jardinier, je crois que vous le soulignez, il faut quand même être, il faut être très intelligent parce que... ben oui.
Il faut... Ben intelligent, je sais pas. Je trouve qu'un bon jardinier, c'est quelqu'un qui a du bon sens.
Oui, enfin, il faut quand même apprendre le latin, enfin, savoir...
Oh ben le latin, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Hein.
Oui, mais pour les plantes, quand même, c'est plus facile. Beaucoup ont des noms latins.
Oui, bien sûr, mais enfin bon, on peut jardiner.
On peut jardiner.
On peut jardiner sans connaître
si
le latin.
Si on veut être un peu jardinier, quand même, il y a des connaissances.
Ouais. Ouais. Mais je trouve que l'intelligence, je ne sais pas trop ce que c'est l'intelligence, mais en tout cas, le bon sens, il est évident que je me dis tous ces livres dont on dispose, finalement, on n'en a pas besoin. Il suffit d'avoir du bon sens, d'observer son jardin, de regarder les plantes. Et on arrive à comprendre si elle se plaît, si elle ne se plaît pas. Et,
oui, mais on commet
des fautes. Et
apprendre
des mesures. Ah ben, oui, mais on apprend en faisant des fautes et on apprend et on les change de place et on se dit, bah, tiens, effectivement, elle préfère le soleil plutôt que l'ombre. Le bon sens, surtout, je trouve que pour jardiner, c'est surtout l'observation qui est importante. Et ces gens-là, ces explorateurs qui sont partis, c'était des observateurs avant tout remarquables.
Oui, oui.
Remarquables. Aussi bien de l'espèce humaine, parce qu'il fallait aussi qu'ils se fondent dans le paysage et qu'ils s'adaptent aux gens. Qui découvraient, qui avaient de drôles de langues, de drôles de coutumes, etc., qui n'étaient pas les leurs, loin des leurs. Et puis, il fallait qu'ils aient l'œil aussi pour découvrir des plantes qu'ils avaient vues nulle part ailleurs. Je pense que l'observation, finalement, c'est la base de tout. Si on observait davantage, on verrait tellement plus de belles choses et on y ferait davantage attention.
Oui, ça c'est vrai aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'à notre époque, il y a encore des grands découvreurs, des grands jardiniers ?
Des grands jardiniers, bien sûr. Des grands découvreurs, il y en a encore. Enfin, on n'a pas tout découvert, je pense. Il y a encore des plantes. Quand bien même, on n'en connaît pas toutes les vertus non plus. Par exemple, là, on parle beaucoup de la communication des plantes. C'est quelque chose qui émerge, mais... Tout doucement, c'est vrai qu'on n'en parlait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout de la communication des plantes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les arbres savent communiquer entre eux.
Oui.
Mais
ça, c'est très nouveau.
Et quand même, on met le temps, quoi. On met le temps à respecter le monde végétal. Les plantes ont un tort, c'est qu'elles ne chouinent pas, elles ne miaulent pas, elles ne pleurent pas. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir en face de nous quelque chose d'inerte et on voit de plus en plus des gens qui achètent des plantes comme ils achèteraient un paquet de lessive. Or, c'est vivant, une plante.
Oui, oui.
Et ça exprime des choses. Il faut savoir les observer pour les comprendre.
Oui, d'ailleurs, on sait que c'est important dans un jardin de mettre certaines fleurs qui vont empêcher, par exemple, des pommes de terre d'avoir...
Oui. Elles apportent des bonnes choses. Les associations de plantes,
voilà,
peuvent être
ça,
tout à fait positives ou négatives.
Peut-être on pourrait finir sur ce sujet, oui, l'association des plantes qui peuvent apporter,
ouais,
oui.
Ouais.
Finissez votre phrase.
Ben non, mais s'entraider entre elles par les substances qu'elles libèrent.
Vous pouvez donner un exemple précis.
Ben, si on parle des rosiers, par exemple, on dit toujours qu'il ne faut pas planter un rosier à la place d'un autre parce que, précisément, le rosier libère des toxines.
Eh bien, écoutez, un grand merci.
Merci.
Je rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.